Il est 7h.
Nous proposons, nous à Paris, de faire un vrai confinement de 3 semaines pour repartir sur des bonnes bases, pour pouvoir après s'organiser.
Assez de demi-mesures, dit l'équipe d'Anne Hidalgo. Elle veut un confinement strict à Paris pour 3 semaines. Elle espère pouvoir ouvrir ensuite les bars et restaurants. Le gouvernement, lui, préfère encore temporiser. 20 départements en vigilance renforcée et l'espoir d'un retour à la vie normale pour le printemps grâce à la vaccination. Dans ce journal, une ligne historique fermée il y a 3 ans. Le train de nuit est donc de retour entre Paris et Nice. Et puis, vous brûlez peut-être de passion pour les Jeux Olympiques. Une torche olympique de 1968 est à vendre aux enchères en Bretagne. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, je vais vous parler de La Poste. Le courrier s'effondre, c'est tout un pan historique de l'activité de La Poste qui est en train de disparaître et c'est un défi existentiel pour le groupe public.
Le regard international de Vincent Hervouette avant l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Moi je vais faire l'éloge des défaites dans le sport ce matin. C'est important de perdre, vous savez.
Oui, oui, pourquoi pas, les rois de la lose ce matin, si j'ai bien compris. Nous retrouverons ensuite Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est donc avec vous Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le gouvernement est donc trop mou. Il faut aller plus vite et plus fort pour casser la progression du virus. C'est un peu le sens de l'annonce de la mairie de Paris tard hier soir. Placée en vigilance renforcée comme 19 autres départements, en attendant le point d'étape la semaine prochaine, la capitale va demander à la préfecture un confinement strict, dès maintenant et pour 3 semaines. Écoutez l'adjointe d'Anne Hidalgo à la santé, Anne Souiris sur Europe 1.
L'idée est simple, hein, c'est de se dire qu'à partir du moment où, depuis la deuxième vague, on n'a pas du tout réussi le pari qui était fait avec un semi-confinement, d'arriver à faire en sorte qu'on puisse retourner à un état à peu près normal. Donc, à partir de ce moment-là, nous proposons, nous à Paris, de faire un vrai confinement de 3 semaines, proposer un confinement de 3 semaines. Pendant ce temps-là, on réorganisera la suite des événements pour repartir sur des bonnes bases et avoir cette fois-ci une vraie préparation, une vraie planification de la suite pour que ce virus qui va rester encore jusqu'à la fin d'une vraie vaccination, une vraie période de vaccination pour tous, eh bien pendant cette période-là, on pourra vraiment préparer, faire avec les gens, faire des écoles qui fonctionnent, faire aussi avoir aussi une vie culturelle fonctionnelle. On préfère y aller pour pouvoir après s'organiser.
L'adjointe à la santé de la mairie de Paris, Jean-Rémy Baudeau, l'équipe d'Anne Hidalgo joue donc la confrontation. C'est un peu qui sera le plus responsable face à la pandémie.
Oui, et c'est peu dire que la proposition d'Anne Hidalgo a été fraîchement accueillie hier soir, car le Premier ministre venait à peine d'annoncer des concertations dans les départements à risque. À Matignon, on juge donc que cette proposition arrive trop tôt. Les discussions n'ont même pas commencé, renchérit un conseiller à l'Élysée. Au sein de l'exécutif, on rappelle néanmoins que Paris est aussi un département et qu'une telle décision serait prise à la préfecture, pas à l'hôtel de ville, fermer le banc. Le gouvernement aimerait par contre ne pas faire de Paris et de l'Île-de-France un cas particulier. Il n'y a pas de différence épidémique avec les autres départements en rouge, précise le ministère de la Santé. Pour autant, Paris a une charge symbolique, économique et géographique à part. En privé, Jean Castex le reconnaît, confiner Paris donnerait lieu à des réflexions sur les déplacements, les transports. Paris est un nœud logistique et ferroviaire. La pression monte donc pour les habitants de la capitale et de sa région. Ils ont une semaine pour éviter une flambée du Covid. Sans quoi, un confinement en week-end, comme à Nice ou à Dunkerque, n'est plus exclu.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Et Théo Manval, on retient aussi cette perspective qu'a voulu donner le Premier ministre hier soir. L'espoir d'un retour à la vie normale à la fin du printemps.
Oui, grâce à la campagne de vaccination, elle sera ouverte aux plus de 65 ans d'ici début avril, a dit Jean Castex. Et d'ici la mi-mai, tous les Français de plus de 50 ans se seront vus proposer une première injection. La mi-mai, c'est dans 2 mois et demi.
Ça, c'est s'il n'y a pas de nouveau retard dans les doses. Les patrons des laboratoires pharmaceutiques étaient auditionnés hier par les eurodéputés.
Qui les ont mis face justement à ces retards essuyés depuis le début de l'année. Isabelle Horry, des géants pharmaceutiques dans leurs petits souliers.
Oui, l'heure n'était pas à l'arrogance pour ces grands patrons. Ils ont joué profil bas pour tenter de convaincre de leur bonne foi. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a ainsi expliqué que la production de vaccins s'effectue à flux tendu, sans stock, à la merci du moindre imprévu, comme quand une pompe s'est cassée sur l'un de ses sites.
Les équipes y ont passé plusieurs jours, des nuits aussi. Mais les jours perdus à réparer la pompe et à faire homologuer la nouvelle pompe, eh bien ces jours-là sont perdus pour toujours. Comme nous produisons à flux tendu, on ne peut jamais rattraper.
Le plus attaqué, c'est le patron d'AstraZeneca. Au premier trimestre, il a réduit les livraisons de 60% dans l'Union européenne. Les eurodéputés ne comprennent pas pourquoi les Britanniques, eux, sont livrés normalement. Pascal Soriot plaide non coupable.
Le gouvernement britannique a financé le développement du vaccin de l'Université d'Oxford et sa production. Donc il avait déjà conclu des contrats avec des sites de production et quand nous avons signé avec Oxford, on nous a notifié ces engagements préexistants.
Les élus sont déçus, ils espéraient des garanties sur les livraisons des mois à venir, mais ils n'en ont pas obtenu.
Oui, les prochains mois seront difficiles sur la vaccination, a même dit le président du Conseil européen, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et les 27 ont aussi parlé hier soir du fameux passeport vaccinal.
En affichant leur désaccord, les pays du Sud, mais aussi Angela Merkel, y sont favorables pour permettre la reprise du tourisme. « Je ne l'accepterai pas », a répondu Emmanuel Macron, tant que les jeunes, notamment, n'auront pas eu accès au vaccin. En attendant, vaccin ou pas, c'est une conséquence frappante du climat d'anxiété dans lequel nous vivons depuis bientôt un an. Les naissances en France ont chuté de 13% par rapport à l'an passé. Chiffre fourni par l'INSEE, comparatif sur le mois de janvier.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
13% de bébés en moins, c'est tout simplement inédit depuis 1975.
Effectivement, il faut remonter à septembre et octobre 1975 pour observer la même chute drastique, soit quelques mois après le choc pétrolier qui signe la fin des Trente Glorieuses et du baby-boom. En janvier 2021, c'est bien sûr l'inquiétude forte face au Covid qui explique cette chute, car si on remonte 9 mois avant, nous sommes en mars, soit le moment où le nombre de décès quotidiens dus au Covid ne cesse de croître. Autres éléments d'explication avancent l'INSEE, la peur des mères de contaminer leur nouveau-né et la fermeture des centres de procréation médicalement assistée durant le confinement, naissance qui représente 3,5% du nombre total chaque année.
Virginie, est-ce que ce phénomène doit vraiment nous inquiéter ?
Ce qui est sûr, c'est que nous étions déjà dans une baisse tendancielle des naissances depuis 2015. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que la chute est vertigineuse. Pour le deuxième mois consécutif, en décembre 2020, elle était déjà de 7%. Seul espoir que la courbe s'inverse rapidement, comme l'explique Sylvie Lemines de l'INSEE.
Les démographes ont souvent constaté, c'est que notamment dans des périodes de crise économique, il peut y avoir un report des naissances de la part des parents, qui préfèrent attendre un environnement avec moins d'incertitudes. On peut penser que cette diminution des naissances, en fait, c'est un report des projets de parentalité. Après, ce qui est très difficile de savoir, c'est de combien de mois.
L'INSEE va donc scruter avec attention les bulletins de naissance des mois de février et mars pour comprendre si le phénomène s'atténue ou s'amplifie.
Voilà, projet vraiment abandonné ou naissance simplement reportée. On suivra ça. Merci beaucoup Virginie.
Oui, et on va essayer d'y voir plus clair même avec l'éminent démographe Hervé Lebrac, qui est mon invité dans le Tête à Tête Europe Matin à 7h40 tout à l'heure. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h08. 7 nouveaux mineurs présentés à un juge hier soir après les rixes du début de semaine en Essonne.
Cette fois pour la mort d'un ado de 14 ans à Boussy-Saint-Antoine. C'est le second dossier, celui de mardi. Le parquet demande la détention provisoire pour le jeune qui a donné le coup de couteau mortel. Alors que se passe-t-il ensuite pour ces jeunes ? Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
Qu'est-ce qui les attend après une mise en examen à 14 ou 15 ans ?
Eh bien, le premier enjeu, c'est de couper ces mineurs de leur milieu, empêcher tout contact entre eux pour casser le phénomène de bande le temps de la procédure. Ce sont des réponses presque systématiques dans le cadre d'infractions commises en réunion par des mineurs, comme nous l'explique Laurence Bellon, présidente du tribunal des enfants à Marseille.
Ils partent en détention, ou ils partent en centre fermé, ou ils vont dans de la famille élargie, par exemple, avec une reprise en main de la scolarisation, les soins psychiques, les soins physiques. On est dans une fonction d'apprentissage des interdits et des valeurs de la société, l'interdit de la violence, du vol, l'interdit de l'agression, plus complexe que simplement la sanction d'une infraction.
Les mineurs mis en examen sont suivis tout le temps de la procédure par des éducateurs spécialisés de la protection judiciaire de la jeunesse avant leur procès devant un tribunal pour enfants s'ils avaient moins de 16 ans au moment des faits. Sinon, c'est la cour d'assises. Les peines encourues sont divisées par deux par rapport aux majeurs.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe. Dernière session de travail pour les 150 citoyens de la Convention pour le climat. Après 9 mois de travaux, ils se penchent aujourd'hui jusqu'à dimanche sur la reprise par le gouvernement de leurs propositions dans différents projets de loi. Reprise insuffisante, dénoncent déjà nombreux d'entre eux.
Ils peuvent se satisfaire en revanche de la réouverture du train de nuit entre Paris et Nice. Cette ligne historique, pour ceux qui veulent éviter l'avion, avait été fermée il y a maintenant 3 ans.
Votre attention s'il vous plaît, ce train de nuit reprend du service. Premier trajet le 16 avril. La réservation de billets vient d'ouvrir et il y a déjà du monde sur le quai. Johanna Chabas.
Des billets disponibles à 25€ ou 30€ en couchette. À ce prix-là, on y va tout de suite, on réfléchit pas.
Romain s'est rué sur le site de réservation dès son ouverture. Éviter la voiture ou l'avion, un enjeu écologique pour ce Parisien. Mais surtout, passer la nuit dans le train, c'est selon lui le plus pratique.
Aujourd'hui, il n'y a que des trains de jour avec le TGV. Il n'y a pas moyen d'arriver le matin à Nice, si ce n'est partir la veille et prendre une chambre d'hôtel à Nice. C'est une nouvelle fenêtre qui nous permet de partir le soir et on se réveille au bord de la mer sur la Côte d'Azur.
Mais cette nuit se passera dans les anciens trains de la ligne, tout juste rafraîchie à hauteur de 100 millions d'euros. Pour ces 12 heures de trajet, pas de wifi, seulement quelques prises électriques et le masque obligatoire en permanence, même pour dormir. Nicolas Faurien du collectif Oui au train de nuit aurait aimé une proposition plus attractive pour le passager.
Ce qu'on demande à l'avenir, c'est d'investir vraiment dans une nouvelle génération de trains de nuit avec des cabines privatives avec douche et des couchettes vraiment confortables et que le gouvernement va vraiment se lancer avec des lignes transversales, pas que vers Paris et des lignes vers l'Europe.
C'est l'objectif annoncé du gouvernement. Le ministre délégué au transport parle d'une dizaine de lignes de trains de nuit d'ici 2030.
Johanna Chabas, en bref.
Le train, pardonnez-moi, l'avion, ces questions-là, et vous évoquez la Convention citoyenne pour le climat, on va en parler bien sûr avec mon invité à 8h15, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique.
Je suis innocent et je n'ai rien à craindre à la réponse de Gérard Depardieu aux accusations de viol. Il donne un entretien au journal italien La Repubblica et dit qu'il se présentera au tribunal le 10 mars pour réfuter ces accusations qui lui valent une mise en examen.
On termine avec les sports et Lille, éliminée de la Ligue Europa en football après sa défaite 2-1 hier soir face à l'Ajax Amsterdam.
C'était le 16e de finale retour et puis Mathieu, je ne sais pas si la flamme olympique brûle en vous.
Mais si jamais c'était capable le cas, de savoir quand on aura des JO.
Si jamais c'était le cas et que vous avez un peu d'argent de côté, vous vous alignerez peut-être sur cette vente aux enchères demain à Vannes. On y vante une torche olympique des JO de Grenoble de 1968, Charles Guyard.
J'ai le grand honneur de présenter cette torche de 1968 Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble.
Et c'est ainsi que maître Jacques-Philippe Rouelland donnera samedi à Vannes le coup d'envoi des enchères pour le Lostar de la journée. Longue de 76 cm, ornée du blason aux 5 anneaux, en cuivre légèrement passé, l'objet provient d'un membre du comité d'organisation des JO 1968. Une torche donc portée par un relayeur jusqu'à la grande vasque, on en est certain.
Nous avons même son brûleur, on voit qu'il a été consumé puisqu'on a des traces de carbone dessus. Donc ça intéresse automatiquement.
Et cela intéresse beaucoup de monde. Sitôt l'annonce publiée, plusieurs acheteurs potentiels en France, mais aussi à l'étranger, se sont manifestés. Delphine Kahl, claire du commissaire priseur.
On pense tout de suite au musée du sport, mais on a aussi beaucoup de collectionneurs privés. Et puis on a des entreprises aussi qui veulent acquérir des objets comme ça, assez symboliques.
Et l'heureux acquéreur devra en tout cas casser sa tirelire avec un prix de départ fixé à 30 000 euros qui pourrait vite s'envoler. Quant aux malheureux perdants, ils se consoleront évidemment avec la devise de Coubertin. L'important, c'est de participer. Et en attendant la vente, la torche reste évidemment conservée en lieu sûr.
Alors là, on va au coffre-fort chercher la torche.
Van Charles Guyard, Europe 1.
Et on peut la mettre au coffre-fort. La dernière de ces torches s'était vendue 210 000 euros il y a 8 ans, en 2013.
Mais avoir cette torche, moi je la mets dans le jardin. Enfin, je veux dire, je ne la mets pas dans un coffre-fort. La flamme olympique dans le jardin. Ce serait bien, non?
Ça fait une certaine déco.
Merci Théo Manval, c'était le journal de 7h. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.